franceinter.fr.
Et c'est Audrey Tison qui présente le journal. Bonsoir.
Bonsoir. Qui a tué Boris Nemtsov ? Toute la Russie se pose la question au lendemain de l'assassinat du principal opposant à Vladimir Poutine. Les moscovites lui ont rendu hommage aujourd'hui avant une marche blanche demain. C'est un grand nom de la littérature qui s'est éteint. Yashar Kemal est mort à l'âge de 91 ans. Son roman, Mehmed Le Mince, avait été traduit en 40 langues. La fin de la galère sur les routes des stations de ski. Réouverture de la départementale qui mène au Menuire et à Val Thorens. Il a fallu dynamiter et dégager un bloc de 15 tonnes de pierre. Et puis une journée de sport, nous reviendrons sur la nouvelle défaite du 15 de France et tous les résultats de Ligue 1 de football.
France Inter.
Colère et émotion à Moscou au lendemain du meurtre de Boris Nemtsov, le principal opposant à Vladimir Poutine, marchait à deux pas du Kremlin lorsqu'il a été touché par 4 balles dans le dos. L'assassinat ne fait pas de doute. Des milliers de Russes lui ont rendu hommage aujourd'hui sur le lieu même de sa mort. Caroline Larson.
Oui, j'étais tout à l'heure sur ce pont où Boris Nemtsov a été abattu. J'y ai vu des gens déposer des bouquets de fleurs, se recueillir. Pleurer pour certains, d'autres encore exhibaient une pancarte portant l'inscription Zatchem, qui veut dire pourquoi. Plusieurs milliers de personnes donc ont afflué de cette manière toute la journée, et pas seulement des adeptes de Boris Nemtsov, mais aussi des gens simplement tristes, en colère, venus demander des comptes au gouvernement, comme cette dame russe avec qui je discutais tout à l'heure, qui m'expliquait les larmes aux yeux que le Kremlin était bien évidemment derrière tout ça, ou plutôt le FSB, Service fédéral de sécurité en Russie. Mais pour désigner le FSB, elle disait KGB. KGB comme au temps de l'Union soviétique, visiblement pour elle et pour beaucoup d'autres. Rien n'a vraiment changé depuis, au moins en ce qui concerne la manière de fonctionner du gouvernement. Mais pour d'autres, comme un jeune homme prénommé Maxime, il est tout à fait absurde de penser que le Kremlin est derrière l'assassinat de cet opposant, car pour lui, comme pour la plupart des Russes, Vladimir Poutine est aujourd'hui devenu un véritable héros de la nation. Alors on verra demain ce qu'il en est avec cette marche prévue à Moscou en hommage à Boris Nemtsov, mais en tout cas, vu la foule qui s'est déjà déplacée aujourd'hui, il devrait y avoir beaucoup de monde demain.
Correspondance à Moscou de Caroline Larson. De leur côté, les proches de Boris Nemtsov n'hésitent pas à pointer du doigt la responsabilité du Kremlin. D'après le président ukrainien, Nemtsov s'apprêtait à révéler des preuves de l'implication des forces armées russes en Ukraine. C'est ce qui lui aurait coûté la vie. Écoutez le témoignage d'un ami et compagnon de combat de Nemtsov. Il s'appelle Ilya Yashin. Ensemble, ils ont fondé le mouvement Solidarnost.
Boris was one of my close friends.
Boris était un ami proche et je suis triste. Il était l'un des principaux leaders de l'opposition russe et nous savons bien qu'il est impossible de le remplacer. Nous espérons que la société russe se réveillera et tentera de comprendre ce qu'il se passe dans notre pays, que la mort de Boris pourrait bien être la raison qui l'aide à ouvrir les yeux. Je pense que Poutine est responsable politiquement, car il est responsable de l'atmosphère de haine dans notre pays. Poutine a créé un climat où les gens se haïssent et où les leaders de l'opposition deviennent les ennemis de l'État dans la propagande. Et au final, cette haine se matérialise dans les balles qui ont tué Boris.
Pensez-vous être en sécurité ?
Je ne veux pas parler de ça. Je ne pense pas que quiconque critiquant Poutine en Russie puisse se sentir en sécurité.
Il y a Yashin, contacté par Mathilde Dehimi, et notez qu'une manifestation d'hommage à Boris Nemtsov est aussi prévue demain après-midi à Paris, autour de la Fontaine des Innocents. On prend maintenant la direction de la Turquie pour une autre disparition, celle de l'écrivain Yashar Kemal, mort d'une maladie à l'âge de 91 ans. Son roman, Mehmed Le Mince, avait connu un grand succès en 1955. Il était décrit comme un conteur dans la plus pure tradition. Retour sur sa vie, son œuvre avec Ilana Moriosef.
Il était né en Cilicie et précisait volontiers que c'était la région de Saint-Paul de Tarse. Yashar Kemal a longtemps été le seul auteur turc connu à l'étranger. Il a été traduit en 40 langues. Son nom était régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature. Il l'aurait assurément mérité. Ses débuts littéraires ont été assez singuliers. C'est devant un tribunal qu'a eu lieu la première lecture publique de sa première nouvelle. Il avait 17 ans. Il était suspecté de sympathie communiste. Le Le juge lui a avoué après coup qu'il avait beaucoup aimé son texte. Kemal venait d'une famille kurde, pauvre. Il a été le premier de son village à apprendre à lire et à écrire. Ses convictions socialistes, la défense de la minorité kurde, lui ont valu des procès, la prison et l'exil. La saga de Mehmed Le Mince reste un classique de la littérature de la révolte. Mehmed, un jeune paysan, devient un brigand redresseur de tort en lutte contre les grands propriétaires terriens. Dans mes romans, disait-il, vous trouverez toujours la peur et des personnages qui vont à sa rencontre pour la vaincre. Je fonce toujours vers ce qui me fait peur.
Ilana Mouryoussef pour France Inter. Le Hamas est désormais classé organisation terroriste par l'Égypte. La justice égyptienne accuse le mouvement palestinien de soutenir l'opposition islamiste, celle-là même qui s'est ralliée au groupe État islamique dans le Sinaï et qui multiplie les attentats contre le pouvoir égyptien dans la région. Les relations entre le Hamas et l'État égyptien sont au plus bas depuis 2013. Précision de François Hume Ferkataji.
Il y a tout juste un mois, c'était la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine Al-Qassam, qui étaient déclarées organisation terroriste. Cette fois-ci, c'est le Hamas lui-même. Le mouvement palestinien est accusé de soutenir les djihadistes du Sinaï, qui revendiquent régulièrement des attentats contre l'armée égyptienne. Il est donc loin le temps où l'ancien président égyptien Mohamed Morsi était reçu avec les honneurs à Gaza. Aujourd'hui, l'Égypte poursuit son entreprise de destruction minutieuse de tout ce qui touche de près ou de loin aux frères musulmans. Et le Hamas est une émanation de la confrérie. La justice égyptienne a également condamné ce samedi à la prison à vie pour la quatrième fois le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badi, pour incitation au meurtre, tandis que plus de 15 000 personnes accusées d'être membres de la confrérie sont toujours derrière les barreaux. Le Hamas a rapidement réagi à la décision égyptienne. C'est une grande honte pour l'Égypte, une escalade dangereuse à l'encontre du peuple palestinien et des forces de la résistance. Le Caire, François Ferkataji, France Inter.
Et pendant ce temps, on aperçoit une lueur d'espoir au Mali. Une rencontre entre le gouvernement malien et six groupes armés du nord du pays est prévue demain à Alger. Un accord de paix doit être signé. Il prévoit notamment de donner plus de pouvoir aux échelons locaux et les populations du nord seront mieux représentées dans les institutions.
Intersoir.
Un éboulement rocheux, une route coupée pendant 24 heures et une belle pagaille pour les vacanciers en direction des stations de ski. C'est ce qui s'est passé en Savoie sur la route départementale 17 qui dessert les Menuire et Val Thorens. Ce soir, la route est de nouveau rouverte à la circulation après une intervention délicate car un énorme rocher de 50 tonnes s'était écrasé sur la chaussée. Précision de Jacques Beau de la direction des routes de Savoie.
Il y avait un cratère qui faisait quasiment les deux tiers de la largeur de la route sur largement 1,50 m de profondeur. Donc là, il faut reconstituer une chaussée, au final remettre un revêtement. Et le deuxième chantier à l'aval consistait en fragmenter le gros bloc qui était immobilisé sur la chaussée, le fragmenter en éléments plus petits de manière à pouvoir les dégager de la route en les chargeant dans les camions ou les poussant en contrebas. Donc ce bloc qui faisait sur plusieurs mètres de hauteur, la nécessité pour être fragmenté d'amener deux machines dites BRH, des brise-roches hydrauliques, c'est-à-dire des grosses pelles mécaniques qui ont des très gros marteaux piqueurs en bout de bras et qui voilà agissent pour le casser en bloc. Malheureusement, bien sûr, ce genre de risque est présent en beaucoup d'endroits. Par contre, un bloc de cette taille-là, ça c'est quand même très rare.
Jacques Beau, contacté par Mélanie Vialet. Et toujours sur les routes, notez qu'une coulée de boue empêche tout accès à un hameau de Gazost dans les Hautes-Pyrénées. Une portion de la chaussée a été littéralement emportée hier après-midi. Sur les 140 habitants, deux personnes malades ont été évacuées par hélicoptère. L'avez-vous noté dans votre calendrier ? Vous êtes appelé aux urnes dans trois semaines pour les élections départementales. C'est le nouveau nom des cantonales. La campagne bat son plein sur le terrain. En meeting à Paris, Marine Le Pen espère que ses troupes seront maîtres de ce scrutin afin, je cite, d'influencer à terme la politique menée dans les départements. Le Front National, qui pense remporter de très nombreux cantons, mais reste prudent sur sa capacité à gagner des départements. De son côté, Manuel Valls menait campagne sur un marché de Rennes aujourd'hui. Le Premier ministre a prévu en tout une dizaine de déplacements d'ici le second tour, le 29 mars.
Il ne reste plus qu'une journée pour en profiter. Le Salon international de l'agriculture, porte de Versailles à Paris. Un salon placé sous le signe des nouvelles technologies et de la robotique. De quoi révolutionner la vie des agriculteurs. Exemple avec ce robot qui cale ses pas dans les pas de l'exploitant. C'est un petit peu comme un grand caddie qui suivrait l'exploitant comme un toutou. Et Manuel Ruffez nous le fait découvrir.
À l'origine, le projet est développé pour l'armée, mais très vite, les chercheurs s'aperçoivent que les problématiques peuvent être identiques en agriculture, transporter des charges lourdes sur des terrains chaotiques. Et voilà comment le baudet robe, l'âne robot, voit le jour. Un concentré de technologie fait qu'il vous suit pas à pas à votre rythme, se jouant des obstacles. Christophe Debain est chercheur à l'IRSTEA, l'Institut de recherche en sciences pour l'agriculture.
Le robot va apprendre mes jambes lorsque je vais presser sur un bouton, la forme, la taille et dans les premiers mètres, la façon dont je me déplace. Donc j'appuie sur le bouton d'apprentissage, donc je me situe dans un périmètre autour du robot, voilà, et maintenant je peux me déplacer. Donc dans les premiers mètres, c'est encore une phase d'apprentissage. Et puis maintenant, il va être capable de me suivre partout où je vais.
Le robot s'adapte à la trajectoire de l'homme et rend son travail moins fastidieux et plus productif. Christophe Debain.
Il porte votre charge. Donc en fait, vous n'avez plus mal au dos, il n'y a plus de poids à porter et vous pouvez vous concentrer sur la cueillette. Plus simple, plus productif à la fois, parce que pendant que vous ne portez pas les caisses de légumes, eh bien vous pouvez cueillir. Donc en fait, c'est un robot qui va être très vite rentable dans le domaine maraîcher. C'est ce que nous ont dit tous les maraîchers qui sont passés sur le salon.
Les maraîchers, mais aussi les viticulteurs, les arboriculteurs et les forestiers, Baudet Robe doit être commercialisé début 2016. Au Salon de l'agriculture, Manuel Ruffez, France Inter.
Il est 23h11, place au sport. Le 15 de France n'y arrive pas. Les rugbymen français s'inclinent de nouveau dans le tournoi Destination. Défaite 20-13 face au Pays de Galles. Les Français n'ont plus d'espoir de gagner le titre et pourraient même repartir avec la cuillère en bois, Patrick Rivaz.
Et toujours la galère pour le 15 de France, cette fois-ci face au Pays de Galles. Deuxième défaite en trois matchs dans le tournoi Destination qui pourrait tourner pour les Français au cauchemar. Défaite 20-13 qui sanctionne une équipe tricolore. Encore une fois, trop approximative, velléitaire et laborieuse. Une équipe privée de ballon et donc de munitions en première mi-temps qui n'avait que sa défense, certes implacable à proposer pour endiguer le jeu carré sans fioriture mais pragmatique de l'adversaire qui atteignait donc la mi-temps avec 3 points d'avance au tableau d'affichage. 6-3 pour le Pays de Galles à la pause et un espoir à la reprise avec des Français beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus offensifs, beaucoup plus perspicaces mais incapables de marquer un essai salvateur. Ce sont donc même les Gallois qui inscrivaient le premier essai du match par l'intermédiaire de leur demi d'ouverture Bigard avant que Brice Dulin ne réplique à la 68e minute. En fin de rencontre, rien de nouveau dans la grisaille des Bleus et c'est donc logiquement que le 15 de France a enregistré un revers de plus qui assomme une équipe bizarrement auteur d'un tour d'honneur à la fin de la rencontre sous les sifflets d'un public de plus en plus incrédule. Au Stade de France, Patrick Grivas, France Inter.
Ballon ovale aussi ce soir. C'était la 27e journée de Ligue 1. 5 matchs au programme. Tous les résultats avec Jacques Vendroux.
Toulouse et Saint-Etienne, match nul, 1 partout. Ce soir également, Evian s'impose à Metz sur le score de 2-1. Lorient a battu Metz 2-0. Le Stade Rennais a battu Lens à Amiens 1-0. Enfin, Bordeaux et Reims, match nul, 1 partout. Cet après-midi également, Lille a battu Lyon 2-1. Et hier soir, Caen s'est imposé à Marseille sur le score de 3-2. Le classement, premier Lyon, 54 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 52 points. Troisième, Marseille, 50 points. En position de relégable, Toulouse, Lens et Metz. Suite et fin de cette 27e journée, demain après-midi, 14h Nantes-Guingamp, 17h Montpellier-Nice et 21h Monaco contre le Paris Saint-Germain. Jacques Vendroux, France Inter.
Et puis, il va prendre sa retraite à seulement 28 ans. Jason Lamy-Chapuis va raccrocher ses skis à la fin de cette saison. Le Français l'a annoncé cet après-midi, juste après avoir gagné un nouveau titre, celui du sprint du combiné nordique des championnats du monde en Suède. Victoire en équipe avec François Brault. Jason Lamy-Chapuis qui a tout gagné dans sa discipline. Il a décidé de partir sur un titre. D'après lui, c'est le meilleur moment. Et puis, un mot de tennis pour finir. Roger Federer a de nouveau gagné le tournoi ATP de Dubaï. Il s'impose sur le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, 6-3, 7-5.
La météo avec Eliade, créateur de Voyages en Grèce et Îles Grecques. Un large choix de formules de vacances au départ de votre région à découvrir sur eliade.fr.
De la grisaille et de la douceur pour ce dimanche, Joël Colado.
Le vent vient de l'ouest, ce vent océanique qui balayera demain une grande partie de la France accompagnera pour ce 1er mars un temps très doux mais aussi très nuageux. Sur les régions de l'ouest, le bassin parisien, le nord, il pleuvra la nuit prochaine et demain, après les pluies nocturnes, le ciel aura bien du mal à s'éclaircir. Les nuages qui ne laisseront place qu'à des coins de ciel bleu donneront de rares départs averses. En se dirigeant vers le sud-ouest, le massif central et vers les régions de l'est, le soleil ne percera pas et il pleuvra demain. Ces pluies plus ou moins régulières, plus marquées en tout cas demain matin que demain après-midi, donneront très haut sur les Pyrénées de la neige et sur les Alpes, la limite plus neige remontera progressivement au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Et puis autour de la Méditerranée, demain, sur le Roussillon, le Languedoc, la Provence, les pluies qui passeront très vite, tôt demain matin, seront suivies dans la journée d'un temps un peu plus lumineux. Sur la Corse, il y aura un peu de soleil demain matin et un peu, très peu de pluie demain après-midi. Quant aux températures en progression, avec de rares gelées dans l'Est demain matin, ces températures, comprises demain après-midi entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord, atteindront au sud 13 à 15 degrés.